Alors pour terminer, que demandent, qu'espèrent les femmes du réseau des femmes afghanes? Quel soutien peuvent-elles, pourrions-nous leur apporter? Eh bien, elles disent que comme leur priorité, c'est l'éducation des filles, elles ont besoin évidemment de ce qu'il faut éventuellement pour continuer à faire vivre leurs écoles. Par exemple, elles nous disent encore une fois que il manque cruellement d'enseignants, puisque les femmes n'ont pas le droit de... Alors même les garçons ne reçoivent plus d'éducation, puisqu'il y avait beaucoup de femmes qui enseignaient avant. Par exemple, il n'est pas rare d'avoir un seul enseignant qui est censé passer dans 8 classes différentes. Donc évidemment, la qualité de l'enseignement, même pour les garçons, est très, très limitée aujourd'hui. Elle dit aussi que les livres d'école, c'est terrible parce que, par exemple, il n'est pas rare qu'on fasse des exercices de calcul avec des exemples de un fusil plus un fusil égale deux fusils, ou bien on a tué un russe, il y en avait 10 avant, combien il en reste. Donc même dans les exercices scolaires, un discours de guerre en permanence, et il faudrait pouvoir retirer tous ces livres et donc conscientiser les enseignants et réécrire de nouveaux livres. Donc voilà quels sont leurs objectifs. Alors en l'occurrence, elles ont publié ce très beau livre dont je vous parlais tout à l'heure avec des dessins des enfants sur la paix et sur la guerre. Elles prévoient comme prochaine objectif de faire ces changements de livres. Donc, elles disent aussi souvent c'est un lavage de cerveau terrible qui est effectué sur les femmes. Et il faudrait aussi que nous apprenions, nous, à vivre autrement. Il n'est pas rare dans les tapis, sur tout ça, il y ait des images de guerre en permanence. Donc, il faut qu'on trouve, qu'on lave nos cerveaux de cette culture de guerre et qu'on trouve le moyen d'aller à l'envers de tout cela. Et qu'on trouve une façon de réaliser le choc qui s'est produit entre le moment de où on était et où nous sommes aujourd'hui, et de voir qu'en fait il y a eu beaucoup de changements en peu de temps, mais en même temps, comme disait Goulalaï, on n'est jamais passé que du mauvais au pire, et que donc il faut reprendre la question depuis très très loin. Et que, par exemple, il faut se rappeler que les femmes pashtounes, qui est l'ethnie dont sont originaires les talibans, eh bien, considèrent leurs femmes vraiment comme des esclaves, qu'elles travaillent jour et nuit, alors que les hommes sont à la mosquée, en train de papoter entre eux, vaguement de temps en temps sortant leurs fusils pour aller chasser, mais qu'ils ne touchent rien à l'agriculture, rien à l'élevage, que ce n'est pas eux qui vont chercher le bois, ce n'est pas eux qui vont chercher l'eau, et qu'ils trouvent encore moyen de réduire leurs femmes au silence le plus total. Et ça, c'est une tradition ancestrale. Donc, aujourd'hui, elle influence largement ce qui se passe en Afghanistan. Mais il faudra remonter tout ce courant de tradition tribale, de patriarcat et de culture de guerre pour arriver à aller à contre-courant et proposer autre chose avec la non-violence, avec un esprit de paix et le respect des droits de la personne. Si par hasard vous êtes à Paris le vendredi 11 décembre, eh bien, toute l'après-midi, il y a un colloque international qui est organisé sur le thème « La femme afghane à travers l'histoire de l'Afghanistan ». C'est ouvert à n'importe qui, c'est à l'UNESCO, à la place de Fontenoy à Paris. C'est de 14h à 20h. Il y a des femmes, des hommes qui vont prendre la parole pour parler des femmes afghanes. Il y aura une exposition de photos d'une femme qui a collaboré avec Romu Ménage, puisque c'est Laurence Brun avec qui je couvrais souvent le Festival international des films de femmes de Créteil. Laurence a été en Afghanistan il y a longtemps, puisque c'était dans les années 70. Et à ce moment-là, déjà, elle avait fait tout un reportage photo, puisqu'elle est elle-même photographe, sur les femmes en Afghanistan. Et par miracle, aujourd'hui, eh bien, on lui redemande son reportage. Une autre façon de réaliser à quel point peut-être les choses ont beaucoup changé ou n'ont pas beaucoup changé. J'ai sous les yeux une image de jeune femme, de jeune lycéenne du lycée de Zargouna. C'est un 1er mai, le 1er mai 1972 à Kaboul. Et les jeunes filles sont réunies dans le parc central de la ville pour dénoncer leurs conditions inférieures de femmes. On les voit, certaines ont déjà une sorte de foulard blanc sur la tête. La majorité sont têtes nues. Et Laurence nous apprend qu'à cette époque-là, dès depuis plusieurs années, lors des manifestations du 1er mai, les mollahs prêtres musulmans désapprouvent l'émancipation des jeunes filles en leur jetant par exemple de l'acide sur les jambes qui de celles qui porteraient des robes trop courtes. Et bien évidemment, dans les lieux de travail, on ne parle bien sûr pas de travail égal pour de salaire égal pour un travail égal. Mais en tout cas, elles sont dans la rue et elles manifestent. Et une jeune femme au milieu du cœur de la photo a une énergie folle pour crier visiblement son désaccord avec sa situation de femme. Donc je le répète, c'est la femme afghane à travers l'histoire de l'Afghanistan, colloque international à l'UNESCO à Paris, vendredi 11 décembre de 14h à 20h, ouvert à toutes les personnes intéressées par la question. Pour terminer, un très très beau livre à garder comme livre de chevet et à prendre par toute petite dose, à la fois parce que c'est des petites chansons, c'est des petits poèmes écrits par des femmes, les femmes pachtounes, et puis aussi parce que c'est tellement terrible, c'est tellement émouvant que mieux vaut pas le consommer à trop grande dose non plus. Ce livre a été écrit par un homme, Saïd Bahadine Majrou, qui est écrivain et qui a voyagé dans les vallées afghanes, dans les camps de réfugiés au Pakistan, et qui a retrouvé ces chants des femmes que les femmes pachtounes improvisent d'une extrême intensité, mais souvent, comme je vous le disais, d'une violence terrible sur leur situation de femmes réduites à l'état d'objet domestique et complètement asservies, infantiles au code des hommes. Et d'ailleurs, Saïd Bahadine Majrou a payé du prix de l'assassinat son engagement aux côtés des femmes et tout simplement du non-respect des droits de la personne au Pakistan et en Afghanistan. Et le titre de ce livre magnifique, c'est « Le suicide et le chant ». Le suicide et le chant, pourquoi ce titre ? Eh bien parce que c'est les deux actes que les femmes pachtounes imposent malgré tout dans leur situation. Alors le suicide, parce que la tradition tribale pachtoun voit dans le suicide un acte d'une lâcheté terrible, donc aucun homme ne penserait à cela. Eh bien les femmes, pour marquer leur désapprobation du code des hommes, décident, choisissent parfois de se suicider, soit en prenant du poison parce qu'elles ne veulent pas avoir recours à, soit en se brûlant, comme on entendait, s'immolant, comme on entendait parler tout à l'heure le témoignage de cette jeune femme à qui on voulait imposer un mariage qu'elle n'avait pas choisi. Parce qu'elles ne veulent surtout pas ni se pendre ni se tuer avec une arme à feu, parce que ça, ce sont les symboles des hommes, la corde qui tient le bétail et elle aussi, et puis évidemment l'arme du guerrier que sont les hommes autour d'elles. Et puis le chant, eh bien le chant parce que c'est ces poèmes qu'elles écrivent, qu'elles improvisent lors de soirées entre elles, et par lesquelles à la fois elles racontent toutes sortes de choses drôles parce qu'ils les encouragent entre elles à résister, puis aussi parfois des choses d'une violence tragique. Je répète, « Le suicide et le chant », poésie populaire des femmes pachtounes, écrit par Saïd Bahadine Majrou, aux éditions Gallimard, Connaissance de l'Orient.
Tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
Le prix Courrier 1998 des droits de la personne est remis à Anne-Françoise Meckenstock, Anne-Françoise surnommée Koutchoum, qui est récompensée comme grande défendresse de la cause des peuples amérindiens. Elle reçoit ce prix avant tout en tant que, et c'est comme ça que l'appelle le courrier, travailleuse de l'ombre des droits de la personne. Alors, parlons un tout petit peu d'Anne-Françoise Meckenstock. Je l'avais personnellement rencontrée au Salon du Livre, où elle était dans le village alternatif, effectivement, là, avec l'Association pour les droits des peuples amérindiens, avec ses deux petites tresses toutes minuscules qui encadrent un visage toujours si souriant. Et c'est entre autres grâce à elle que j'ai rencontré sa fille, qui, elle, qui est... Anne-Françoise Anderson, Laurette Anderson, qui, elle, connaît beaucoup mieux l'Afrique du Sud, parce qu'autrefois, ils avaient tous vécu en famille en Afrique du Sud. Alors, parlons plutôt de Anne-Françoise Meckenstock. En idiome Haïda, qui est une des tribus du Grand Nord canadien, eh bien, on l'appelle Koutchoum, Anne-Françoise, autrement dit grand-maman. Et bien sûr, elle en a l'air, c'est pour ça qu'elle a ce surnom. Elle en connaît aussi la mélodie, les accords et même toutes les notes subtiles du rôle de grand-maman, puisque fille, maman, grand-maman, aimante et aimée, eh bien, Anne-Françoise Meckenstock est avant tout une femme, de ces femmes dont on a envie de mettre en F majuscule à ce mot-là. Eh bien, dans toute sa sincérité, aujourd'hui, ce bout de femme qui a 75 ans se définit elle-même par des mots comme amour, mais aussi respect et courage. Mais elle dit aussitôt « je déteste la lâcheté ». Elle est d'origine rhénane, elle est née à Neuchâtel et elle a passé toute sa jeunesse dans la région zurichoise. Intuitivement, on devrait même dire instinctivement, elle s'est mise déjà à aimer les Indiens des Amériques, comme si elle en faisait partie intégrante, même si ses profs se demandaient bien ce que cette squaw allait faire dans les bois avec les garçons, elle se mit à vivre comme les Indiens qu'elle vénérait. Elle est évidemment une de ces indépendantes nées, assoiffées de lecture, qui rêve d'évasion et qui, parfois peut-être au grand désarroi de sa famille, suscite évidemment un peu le tollé dans sa façon de vivre sa liberté. Adolescente, elle est toujours très très proche de la nature et elle s'imaginait aux côtés d'un prince charmant dans des régions bien lointaines mais très très attirantes. Et c'est qu'avant toute chose, Kuchum, donc je vous le rappelle, grand-mère en idiome Haïda, ces tribus du Grand Nord canadien, eh bien Kuchum voulait aider les autres. Ça a dû d'abord commencer par les siens, puisqu'elle a commencé par faire une formation d'employé de commerce. Elle devint donc secrétaire pour subvenir aux besoins d'une famille, mais dont le père avait été mobilisé. Pour la guerre, bien sûr. Elle aurait certes voulu, par exemple, étudier l'ethnologie, mais sa vie en a décidé sur le moment autrement. Mais pourtant, ça lui a permis de l'approcher sur le terrain en pleine guerre, parce qu'elle va rencontrer Roy Anderson, un Sud-Africain d'origine écossaise, qui est membre du régiment des Transvaal Scottish et qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, se battait en Afrique contre l'envahisseur fasciste. Il est fait prisonnier en Italie, réfugié politique en Suisse, et Roy Anderson fut celui qui donna enfin à Anne-Françoise l'occasion de partir au-delà des mers. Il fut aussi celui qui permit à Anne-Françoise de devenir la mère de Marie-Noël. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai bégayé, je ne retrouvais plus le prénom de Marie-Noël, donc Marie-Noël Anderson. Ensuite, c'est découvrir d'autres peuples, apprendre d'autres mentalités, c'est tout ça dont rêvait Anne-Françoise Meckenstock. Bien sûr, elle aura aussi les galères qu'on n'oublie pas. Malheureusement, par exemple, cette union s'achèvera en, comme elle dit elle-même, mésentente cordiale. 2 ans après avoir rejoint son mari à Johannesburg, Anne-Françoise et sa fille Marie-Noël regagnent la Suisse et tout son cortège d'obligations quand on doit élever seule une fille. Commence alors une période laborieuse, c'est du genre boulot, boulot et rien d'autre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Anne-Françoise y trouve son compte. Si elle admet qu'à chaque printemps elle aurait bien fait ses valises, eh bien, elle n'en a pourtant pas moins fait une carrière honorable et reconnue au sein du holding de Nestlé. Et entre le 1er janvier 1959, date de son admission dans la société bien connue helvétique, et en mars 83, heure à laquelle elle prendra sa retraite, légèrement anticipée pour des raisons de santé, eh bien Anne-Françoise aura, chez Nestlé, côtoyé et servi plusieurs éminents responsables. Elle est assez reconnaissante à cette situation. Elle dit un petit peu naïvement, c'est en y travaillant que j'ai pu me rendre compte combien étaient fausses toutes les accusations dont on affuble cette entreprise. Eh bien là, c'est là qu'on discerne justement l'état d'esprit de cette femme un peu hors du commun, la reconnaissance. À tel point qu'elle affirme aujourd'hui, toute ma vie, j'ai été poursuivie par la chance. Elle l'attribue essentiellement une fois de plus aux autres, à ses parents, ses amours, sa fille, son petit-fils, qu'elle appelle d'ailleurs « rayon de soleil ». À 59 ans, Anne-Françoise a l'air donc d'une jeune retraitée. Elle n'a pas l'air, elle est jeune retraitée. Dès cet instant, elle avoue que elle a pu ouvrir les vannes et enfin laisser libre cours à tous ses idéaux. Tout naturellement, elle se voue à la cause des peuples opprimés. Elle s'installe à Martigny parce qu'il y a des attaches sentimentales. Et là, elle va travailler au magasin du Monde où elle inaugure un rayon librairie axé sur les droits de la personne. Au hasard de ses lectures, elle apprend l'existence d'une grande organisation appelée Incomindios. De l'Alaska à la Terre de Feu, cette association défend les droits des intérêts des peuples amérindiens. Elle est subjuguée par cette cause, elle s'y investit tant et plus et lui consacre à peu près 300% de son temps, comme dit Anne-Françoise. Elle rencontre à Lausanne, dans le cadre de cette association, Vera Tcheremisnov. Misinov, faut pas que j'abîme le mot, qui est donc la toute récente fondatrice de l'association de soutien aux nations amérindiennes, l'ASNA. Alors, des manifs, des pétitions, des séances d'information en action de soutien, et bien, tout ça, Françoise fonce dedans, comme le biélé qu'elle est. Et elle parle de miracles qu'elle a vécu en épousant cette cause. Jamais, dit-elle, je n'aurais cru pouvoir faire une fois dans ma vie quelque chose qui me convienne autant. Elle se dévoue corps et âme à cette profession de foi. Elle s'identifie tellement à cette lutte qu'elle redevient aussitôt la petite fille d'autrefois qui vivait comme les Indiens dans les bois de la banlieue zurichoise. Alors Anne-Françoise Kutschum nous explique encore que l'action de l'ASNA consiste avant tout à se battre aux côtés des Amérindiens pour la défense de leurs droits élémentaires, c'est-à-dire le droit à leur identité, à leur vision du monde, à leur culture, à leur langue et surtout à leur terre. Alors, elle se trouve, semble-t-il, presque gênée de se voir attribuer ce prix Courrier 1998, attribué donc pour la lutte pour les droits de la personne. Alors, Anne-Françoise a décidé de le dédier plutôt à ce qu'elle défend depuis des lustres avec conviction et respect. Elle l'accepte, bien sûr, et puis elle dit quand même, avec toute l'humilité qui la caractérise, eh bien, ce prix m'arrive en tant que représentante des travailleurs de l'ombre des droits de la personne. Eh bien, quant à nous, nous pensons que cette grand-maman exceptionnelle le mérite déjà bien à elle toute seule. Et pour rester aux côtés des Amérindiens et d'Anne-Françoise Meckenstock, dite Kutschum, eh bien, nous donnons la chanson ultime de Remue Ménage à Buffy Sainte-Marie, une Amérindienne des États-Unis.
And I've just returned from the salt, salt sea, and it's all for the love of thee. Come in, my own true love, and have a seat with me. For it's been three quarters of a long, long year since together we have been. I'll not come in, and I'll not sit down. I haven't but a moment's time, but I hear you are married to a house carpenter, and your love will never be mine. And I could have married with a king's daughter there, so free she was with me. But I forsook all her crowns and gold, and it's all for the love of thee. Well, if you could have married with a king's daughter there, I'm sure you are to blame. And I have married with a house carpenter, and I'm sure he's a fine young man. Well, will you forsake your house carpenter and come away with me? I'll take you down where the grass grows green, down, down by the sweet Dundee. Then she picked up her tiny wee babe and kisses gave it three. Said, stay right here, my own little dear, and keep your father company. Now they hadn't been on ship but about 2 weeks. I'm sure it was not three. When she espied his a cloven foot and began to weep most bitterly. And are you weeping for your house and land, or are you weeping for your store, or are you weeping for the house carpenter whose face you'll never see no more? I am not weeping for my house and land, and I'm not weeping for my store. And this time I'm weeping for my soul so dear, whose purity I'll never see no more. Now they hadn't been on
it, but about 3 weeks. I'm sure it was not more. When he stopped his foot and down she sank and sank to rise no more. Well met, my own true love. Well met, cried he. And I've just returned to the salt, salt sea, and it's all for the love of thee.
Je vous propose pour la fin de Remue Ménage d'écouter d'autres chansons de Buffy Sainte-Marie, cette chanteuse amérindienne des États-Unis. Remue Ménage, c'est sur Ronde de Femmes, Radio Zone 93.8. Une demi-heure de musique va suivre et puis à 19h, vous retrouvez les coups de cœur de Marjolaine, l'agenda de Marjolaine.
Shells turn to silver bells, then will my love return to me. When roses blow in the wintry snow, then will my love return to me. But love grows old and waxes cold and fades away again like morning dew. There is a ship, it's sailing the sea, it's loaded down as deep can be, but not so deep as